dans un coin pourri du pauvre Paris. Sur une place, l'est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse. Si t'as le bec fin, s'il te faut du vin, première classe, va boire à Passy le nectar d'ici, le dépasse. Mais si t'as le gosier qu'une armure d'acier, ma de la race, goûte à ce velours, ce petit.
Bonsoir à tous, nous voilà réunis ce soir pour la 8e émission de l'Ivresse des échanges. Cette émission, j'espère que vous avez suivi, dont le sujet est l'addiction à l'alcool. Alors, je vais faire les remerciements habituels. Remercier les auditeurs qui nous rejoignent ce soir. Remercier Lucie qui est à la technique, à la radio et Studio Zef qui nous accueille. Remercier les participants que je vais présenter tout à l'heure. Ce soir, j'ai le plaisir d'avoir Didier à mes côtés qui va co-animer l'émission avec moi. Alors, on a vraiment beaucoup de chance ce soir. On a deux médecins avec nous et un pharmacien avec les autres copains qui animent d'habitude. On va d'ailleurs tout de suite les laisser se présenter. Oui.
Bonsoir, je m'appelle Romain, je suis jeune médecin dans le Loir-et-Cher.
Merci.
Bonjour, je m'appelle Jules, je suis jeune pharmacien dans le Loir-et-Cher aussi et j'ai exercé un peu à Tours, à Mer et puis voilà, je m'intéresse particulièrement à l'addiction à l'alcool.
Bonsoir, je m'appelle Gilles et je suis vieux médecin dans le Loir-et-Cher.
Didier, co-animateur ce soir avec Olivier.
Merci Didier, je te laisse la parole.
Ah. Donc, quelques rappels, ouais. Tout d'abord, nécessaires, indispensables. Le sens de l'émission. Alors, je rappelle que nous ne sommes pas là pour juger, condamner ou montrer du doigt qui que ce soit. Mais simplement pour souligner que derrière la consommation d'alcool, il y a de graves dangers quelquefois avec la consommation abusive. Et donc nous sommes là pour témoigner justement et éventuellement aider et sensibiliser celles et ceux qui auraient un problème ou qui se sentiraient mal à l'aise par rapport à leur consommation d'alcool. Voilà. Ensuite, quelques rappels de contact pour celles et ceux qui voudraient aussi nous contacter ou contacter des spécialistes en addictologie. Alors, vous avez d'abord le service addictologie de l'hôpital de Blois au 02 54 55 60 44. 02 54 55 60 44. Vous avez le site internet alcologie@orange.fr, alcologie@orange.fr. Ensuite, vous avez aussi le blog Entre deux eaux sur lequel vous pouvez aller. Vous avez la messagerie téléphonique de la radio qui nous retransmet vos messages au 02 54 43 51 33, 02 54 43 51 33, avec l'adresse internet qui va avec, parole@studiosef.fr, parole avec un S au pluriel, @studiosef.fr. Et vous avez des podcasts possibles sur studiosef.fr, l'ivresse des échanges, pour réécouter l'émission et aussi pour mettre vos appréciations.
En fait, tu vas nous répéter tous ces numéros-là en fin de l'émission.
Je les rappellerai après. Ouais. Je finis rapidement par les groupes de parole aussi qui sont mis en place dans le département. Le groupe de parole de Montrichard, à l'hôpital de Montrichard, le mercredi tous les 15 jours. Le prochain sera le 26 février de 18h à 19h30. Vous avez le groupe de parole de Saint-Aignan, à l'hôpital de Saint-Aignan, tous les mercredis de 17h à 18h30. Le groupe de parole de Selles-sur-Cher, salle du centre de loisirs, le mercredi toutes les deux semaines. Le prochain, ça sera le 28 février de 17h30 à 19h.
Alors, le docteur a froncé les sourcils, apparemment il y a un problème. On va revoir ça tout à l'heure. Ouais, on va revoir ça tout à l'heure.
Il faut sa formation.
Ouais. C'est un nouveau groupe de parole, je crois, de toute façon. Hein. Oui, c'est ça.
Et Blois, le mardi, à l'hôpital de Blois, de 11h à 12h30, tous les 15 jours. Le prochain sera le 3 mars. Donc maintenant, je rappelle que Olivier l'a dit à l'instant, le thème de l'émission ce soir, c'est janvier sobre. Donc je te laisse la parole, Olivier, pour...
ce soir, merci Didier. Le thème de ce soir, janvier sobre, tout le monde en a plus ou moins entendu parler. Un rappel rapide du contexte de la campagne. Nous, on s'est basé sur des articles du Monde, des émissions qui sont passées sur France Inter. Il y a eu la presse a pas mal relayé dans l'ensemble. Hein. Et dans ce cadre-là, pour introduire l'émission, je vous propose d'écouter le témoignage d'un de nos amis, de nos participants, qui malheureusement était indisponible ce soir, n'a pas pu se déplacer. Donc on a fait un enregistrement. On s'excuse auprès de Carole aussi, qui voulait témoigner ce soir, mais on a eu des petits problèmes techniques avec Lucie à la technique. Et donc on a cet enregistrement, on va vous le laisser écouter et ensuite on fera place au témoignage. Merci.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Oui, effectivement, cette incitation à faire un autotest de réduction ou de non-consommation d'alcool après la période des fêtes de fin d'année date de 2013 outre-Manche. Alors, on se demande un peu pourquoi le secteur viticole, par le biais de la Revue des Vins de France, tient des propos aussi virulents contre celle qu'il nomme la cohorte des associations hygiénistes. Pour rappel, je citerai le professeur Amin Benyamina qui disait en 2018 « Nous ne sommes pas là pour détruire la filière vinicole, mais pour faire de la prévention. » Sans vouloir rentrer dans le détail des chiffres, en France, la consommation d'alcool est tout de même la deuxième cause de mortalité évitable, soit plus de 42 000 morts par an. En entreprise, elle est à l'origine de 15 à 20% des accidents de travail, des conflits et de l'absentéisme. Et puis, sur la route, en 2018, le bilan était de 3 488 morts, dont 30% imputables à l'alcool. Alors, éviter l'alcool sous toutes ses formes n'est pas quelque chose qui doit paraître comme problématique pour tout un chacun. L'eau est le seul liquide indispensable à la vie. L'alcool en tant que boisson doit être considéré comme un produit d'exception, en cuisine comme un ingrédient. Si le produit absorbé en petite quantité n'est certes pas poison, l'accumulation des prises l'est. Ingérer de l'alcool modifie l'équilibre chimique de notre organisme. Sa transformation sollicite le foie, sa circulation dans le corps modifie notamment le système nerveux. Lorsque l'on s'oppose au janvier sans alcool, il est nécessaire de se poser la question du pourquoi. Pourquoi je ne veux pas essayer? Par peur des railleries, par peur du regard des autres, par peur de ne pas y arriver ou tout simplement par peur de découvrir ma dépendance. Personnellement, c'est il y a près de 40 ans que j'ai essayé un mois d'août sans alcool parce que nous avions l'habitude de changer radicalement notre façon de vivre pendant les vacances d'été. Je pensais aussi que ma consommation d'alcool était anormale. Ce défi, que je n'ai pas pu tenir, m'a conforté dans l'idée que j'étais addict. En septembre, j'ai donc pris la décision de me soigner. Être alcoolique n'est pas honteux, c'est une maladie qui touche des milliers de Français, même si le mot dans la bouche de certains sonne comme une insulte. Alors effectivement, annoncer que l'on arrête le tabac va susciter des applaudissements. Se sortir de ce qui est communément appelé la spirale des drogues dures va provoquer de l'admiration. Mais arrêter définitivement l'alcool amène forcément à cette réflexion. Bah merde, t'es donc alcoolique ? Oui, trop souvent on associe l'alcoolisme à la consommation de grandes quantités d'alcool. Lorsque la maladie s'installe, elle est pourtant discrète et sournoise, et une alcoolisation du week-end semble apaisante, un verre ou deux par jour sont suffisants. Le phénomène d'appétence fait que, petit à petit, le besoin augmente. Et puis, un jour, la consommation sort des clous. Elle apparaît problématique et dangereuse. Et là, c'est le passage de bon vivant à personnage dérangeant. Pour moi, ce janvier sans alcool est une très bonne initiative. Sur le site Action Addiction, le docteur Michel Reynaud comptabilise plus de 8700 participants. Facebook et Twitter franchissent la barre des 6000 inscrits. Espérons que cette année 2020 va permettre à beaucoup de se préparer au janvier sans alcool 2021. Souhaitons aussi que le bouche à oreille fasse son œuvre et que les points positifs constatés par les participants en 2020 inciteront les autres à se lancer dans ce défi dans 12 mois. Les acteurs de santé publique, après un an de recul et de réflexion de la part de leurs opposants, obtiendront leur adhésion en bonne intelligence. J'en suis certain.
Eh bien voilà le témoignage de Gilles, qu'on remercie, il nous a livré ça par téléphone, c'est pas toujours facile. Et ouais, février 2018, au Salon de l'Agriculture, notre bon président, M. Macron, lâche la phrase célèbre maintenant, il faut arrêter d'emmerder les Français avec ça, et ça c'est le vin français. Tant que je serai président, il n'y aura pas d'amendement pour durcir la loi Evin. Parlons, on va pouvoir en parler ce soir, le lobby alcoolier prône l'art de vivre à la française, la culture française du vin, etc. En fait, leur argument ne tient pas la route. Hein. 40 000 morts par an, c'est ce que disait Gilles tout de suite. 120 milliards d'euros, le coût social. 30% des féminicides. 1000 morts d'accidents de la route dus à l'alcool. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur?
Moi, j'étais scandalisé. Hein. C'est un peu une des raisons pour lesquelles j'ai voulu, cette fois-ci, vous accompagner, faire un peu l'expérience avec vous. J'ai eu l'impression qu'il y avait une forme d'injonction paradoxale et puis l'impression qu'on reculait d'un siècle, quoi, tout d'un coup. Dans un monde qui se prétend novateur, on nous sortait les vieilles soupes. Puis c'était nier des gens, c'était nier effectivement 5 millions de personnes qui en souffrent. C'était bien plus qui sont à la limite et qui sortiront le jour où on comptabilisera les décès, mais qui auparavant se manifesteront pas. Ils vont pas mourir précisément de l'alcool, ils mourront d'une autre cause qu'aura un rapport. Quand on dit 40 000 morts par l'alcool, et qu'on dit que c'est 60 ou 70 000 par le tabac, on oublie que les gens qui boivent de l'alcool, souvent, ils fument. Donc on va les comptabiliser dans le tabac. Ça sera plus simple. Et puis, y a tout ce qui se passe dans les familles, etc. Enfin, je veux dire, c'était insupportable de penser qu'ils étaient niés comme ça d'un verre de main. Moi, ça m'a touché. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de participer à ce moment-là.
Alors, comment ça s'est passé ce janvier sobre pour vous, docteur?
Expliquez-nous. C'est vachement dur. Ouais. C'est vachement dur. C'est un peu une surprise, hein, parce que habituellement, je fais tous les ans, parce que je suis quand même, j'ai la chance de, on est dans cette radio ensemble, on s'en parle, on est dans toute une communauté qui réfléchit, qui se soutient. Donc voilà, ça me semble normal de temps en temps de faire un petit bout de chemin avec vous, et tous les ans, je fais un petit bout de chemin qui dure un mois et demi. Et c'est pas drôle, mais c'est mon affaire, donc ça se passe plutôt bien. On en reparlera, mais le fait que ce soit dans une contrainte, un cadre, quelque chose de délimité par d'autres, c'est pas du tout pareil. Et puis, la deuxième chose quand même, c'est que derrière le janvier sobre, il y a une organisation. On l'a découvert sur le tard, vous parliez du Monde, c'est vrai, le Monde a bien couvert ça. Ouais. Et notamment, j'ai découvert à peu près à la moitié du mois qu'il y avait un site internet, on pouvait s'inscrire, etc. Ils disent qu'ils ont eu 8 000 personnes, quelque chose comme ça.
À peu près autour, hein, c'est
ouais, ça. Ouais. Qui sont inscrits sur ce site. Moi, tous les gens que je connais, personne ne s'est inscrit sur le site. On ne connaissait pas ça, nous, on ne savait pas, on l'a fait comme ça. Donc je pense que ça doit être bien plus que ça de gens qui sont... Mais alors, c'était bien à partir de là, parce que tous les jours, il y avait un petit message. Et ça change un peu la donne. Quand on tenait à coup, on n'est pas tout seul. Bon, sinon, je crois qu'il faut laisser la parole aux autres, mais il y aurait plein de choses à dire sur le confort qu'on y trouve.
Hein. Le confort, les effets, on a tous écouté une émission sur France Inter il y a quelques temps, puisque la presse a quand même pas mal relayé. Les effets sont immédiats, on ressent tout de suite le bien-être. Romain, peut-être, tu peux témoigner, toi, en particulier sur les effets, puis sur ton expérience personnelle.
Alors, les effets, oui, effectivement, on se sent mieux dans sa peau assez rapidement, oui.
Alors, j'ai pas demandé à ma compagne et à mes amis s'ils trouvaient que j'avais un meilleur teint ou si mes cheveux étaient plus brillants qu'avant. Mais les effets, on les constate chez les patients qu'on peut voir aussi, qui nous disent arrêter l'alcool, hein, de toute façon. Moi, pour mon expérience personnelle, bah, écoutez, ça a été super facile. Voilà, vraiment, je ne comprends pas ce que vous avez comme problème, parce que moi, j'y suis arrivé très facilement. L'épiphanie, j'ai remplacé le cidre par du pétillant de pomme, c'était très sympa. En plus, j'ai été valorisé par les amis avec qui je la fêtais. Les soirées avec des amis, pareil, je trouvais toujours des alternatives pour boire autre chose, et ça se passait extrêmement facilement. Jusqu'au 15 janvier, où là, bah, une soirée, fatigué, pas le moral, une journée dure. Et j'ai vu les autres boire et j'ai pas réfléchi, j'ai pris une bière. Voilà. Et puis après, je me suis justifié en me disant que j'avais le droit, que la journée avait été dure, voilà, que c'était normal et que c'était pas grave. Donc après, je suis reparti et j'ai tenu encore une dizaine de jours avant de reboire. Et en tout, bah, sur le mois, j'ai bu deux ou trois fois, je sais plus exactement. Mais voilà, j'ai pas tenu en fait. Alors que j'ai pas, normalement, je ne suis pas dépendant de l'alcool, bah, dans les faits, j'ai pas tenu. Donc ça questionne quand même par rapport au rapport qu'on peut avoir à la boisson.
Ouais, bah, c'est quand même c'est sympa comme témoignage. C'est franc, c'est sincère. Oui, les difficultés. Les gens qu'on a entendus sur les témoignages de France Inter, etc., avaient l'air de dire, comme tu dis, en plaisantant, mais que c'était relativement facile, qu'ils étaient surpris, finalement, de se sentir assez bien et que c'était assez facile, que la pression, elle venait surtout de l'entourage et de la famille. Le docteur, vous allez sans doute pouvoir nous dire quelque chose, et puis après, on va donner la parole à Romain, à Jules, pardon.
Moi, j'étais bluffé, hein, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Ça commence le 1er janvier, donc le 31 décembre, je fais comme tout le monde. Et le lendemain, je préviens, dans la famille, on est en famille, je préviens qu'aujourd'hui, zéro. Et alors, celui qui, chez nous, est plutôt celui qui s'occupe des boissons, pour aucun problème. Mais le maître de maison qui nous recevait, il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté. Ça a été verbalement violent. C'est un type qui ne boit pas. Hein.
En plus, c'est ce que m'a dit.
C'est un type qui ne boit pas, mais il n'a pas supporté que je casse un rite tellement fondamental. Il doit se passer quelque chose dans nos rouages. Hein, là, faut pas toucher. Hein.
Ouais, on en revient à ce qu'on disait, nous. Parce que là, bon, il y a l'équipe des vieux abstinents hein, qu'on fait janvier sobre de façon... Mais et c'est ce que disait Gilles aussi dans son témoignage l'autre jour, Gilles Poulain, qu'on a eu tout à l'heure. Si on arrête le tabac, les gens nous félicitent. Si on arrête une drogue dure, c'est de l'admiration. Par contre, si tu dis que tu as arrêté l'alcool, on dit, mais qu'est-ce que t'as un problème? T'as eu un problème par rapport à l'alcool, t'es alcoolique, etc. Et en fait, la pression est là, de l'extérieur. C'est la même question, pense. Tu peux dire quelque chose, peut-être, Bruno.
C'était pas prévu que j'intervienne, là. Je suis en train d'être formé à la technique. Donc, voilà. Non, je trouve que c'est le témoignage de Romain est très, très touchant, en fait, parce que du coup, il dit tout de suite que c'est simple. Et en fin de compte, là où il retombe au bout de 15 jours, alors qu'il n'est pas dépendant de l'alcool, c'est un jour où il a passé une journée qui était compliquée. Et en fait, c'est souvent, nous, notre cas. On peut passer des journées compliquées. Et quand on a cette addiction en plus, bah, c'est dur de passer outre ça, donc voilà.
Merci. Oui, c'est sur cette question que je voulais réagir dans le témoignage de Romain, effectivement, parce que je veux pas lui faire peur, mais quand on est addict, c'est souvent l'alcool vient souvent en récompense, comme la bière, là, à la fin d'une dure journée, ou en récompense ou en consolation, quoi. Donc d'entendre ça, c'est de la part de quelqu'un qui n'est pas addict, ça démontre quand même qu'il y a des réflexes qui sont...
Il y a peut-être aussi le fait qu'on a tous quand même un fond... Moi, j'ai été élevé, comme beaucoup, à l'alcool au plus jeune âge. Hein. Moi, mes parents, c'était le fond de vin dans le verre avec de l'eau à partir de 6 ans. Donc, ça peut paraître très tôt. Dans les faits, il me semble que la moyenne du premier contact avec l'alcool, c'est 8 ans. Alors voilà, l'addiction, elle est peut-être même faible, elle est quand même là depuis un moment, je pense.
Jules, on va prendre ton témoignage maintenant. Tu vas nous dire en particulier une question que je voulais vous poser, et toi je te la pose en premier puisque tu vas témoigner. Est-ce que le 31 janvier, il y a comme un soulagement en se disant « ouf, on peut rattaquer »
Ouais, je pense. Moi, j'ai pas commencé le 1er janvier. Mmh. Je me suis dit que de toute façon, peu importe la date, quoi, si on essaie de s'y tenir. J'ai fait quelques petits écarts. J'ai commencé vers le 15 janvier, mmh, après un anniversaire d'une de mes proches. Et bah, j'ai fait un petit écart aussi au bout de 3 semaines. Donc, effectivement, c'est très simple en théorie, mais difficile en pratique. Parce qu'il y a 1000 occasions de boire et que moi j'ai une consommation d'alcool extrêmement, on va dire, épicurienne. J'aime vraiment boire du très bon vin, des très bonnes bières, et j'aurais pas la possibilité d'être dépendant à ce que j'achète parce que c'est trop cher. Du coup, c'est comme ça que j'essaie de maintenir une consommation un peu basse. Je suis en dessous des normes de l'OMS, c'est-à-dire pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. C'est ce qu'on conseille maintenant. Et même en ayant cette consommation-là, ce qui n'a pas toujours été le cas durant mes études, parce que là, j'avais un alcool un peu plus festif, mais je n'ai jamais eu de véritable dépendance. Effectivement, au début, c'était très facile, et on se sent très bien, on dort beaucoup mieux, on est moins irritable, on se lève moins la nuit... pour l'épicer, c'est vraiment un cercle vertueux, on en voit vite les bénéfices, d'autant plus que moi je suis l'alcoolo-tabagique typique, je fume que quand je bois un petit peu, et là j'ai quasiment complètement arrêté de fumer, pendant que j'ai arrêté de boire, parce que chez moi c'est extrêmement lié, la consommation d'alcool et de tabac, et du coup j'ai quasiment arrêté le tabac en même temps, donc ce qui m'a fait un double bénéfice. Et ce qui était vraiment assez sympa. J'ai recraqué quand je suis sorti avec des amis dans un très bon bar à vin que j'adore à Blois. Et là, c'était vraiment juste pour accompagner les copains, pas pour m'enivrer, parce que j'ai pris un très très beau vin. Mais quand même, quoi. C'est-à-dire qu'en se disant qu'on va y arriver, en ayant toutes les infos là-dessus, même si c'est votre domaine de prédilection, je suis pharmacien, je fais ma thèse sur l'addiction à l'alcool et plus particulièrement le baclofène. Même en ayant toutes ces clés en main, c'est pas si facile de tenir un mois, en fait, parce qu'il y a plein d'occasions de retomber dedans, même si le but, c'est pas un but, on va dire, de soulager une angoisse ou de pas utiliser l'alcool comme un médicament, en fait. C'était pas le but du tout, mais quand même, j'y suis pas arrivé.
Docteur, qu'est-ce que vous ajoutez sur le sujet ?
Pas grand chose, parce que c'est constant, c'est vraiment, d'ailleurs, ça interroge. Il paraît qu'il y a les gens dépendants et puis les autres. Moi, je pense que la dépendance, c'est on vit avec la dépendance. Elle peut devenir dramatique et nous obliger à des choix radicaux, mais ça, ce type d'expérience permet de se rendre compte que la dépendance, bah, c'est quelque chose avec lequel on vit et on négocie pas si bien que ça.
Oui, c'est un sujet, effectivement, parce que bon, là, c'est la 8e émission, ça fait 7 émissions qu'on a montées avec des copains qui sont abstinents depuis 26 ans, des fois 20 ans, 2 ans, 1 an et demi, etc. Et c'était intéressant de réunir ces deux parties d'abstinence. Didier, tu en parlais dans une émission précédente, disant que dans une fête, il n'y a pas que des gens qui s'arsouillent la tête, qui se mettent mal. Il y a aussi des gens qui sont capables de boire un ou deux verres. Normalement, hein. Et janvier sobre, c'est avant tout tourné vers ces gens-là pour qu'ils puissent se questionner sur leur propre consommation.
Ouais, pour moi, janvier sobre, ça n'a rien changé, hein, puisque j'étais abstinent depuis déjà deux ans, à partir de début janvier. Donc, effectivement, mais tu reviens là sur ce qui avait été dit sur les fêtes. Effectivement, bon, on constate autour de soi que il y a des gens qui sont tentés, qui sont plus tentés que d'autres à se servir et à boire. Mais moi, maintenant, je les vois plus facilement qu'avant, ceux-là. Mais je vois aussi ceux qui savent boire modérément et déguster sans aller plus loin et sans exagérer, quoi. Donc ça existe aussi.
Même quand on arrive à boire modérément, la perspective de ne pas avoir d'alcool dans une soirée, ça effraie en fait. On voit maintenant, par exemple, une grande célébration parmi d'autres, le mariage. Voilà. On voit des mariages végétariens. Donc des mariages où il n'y a pas de viande, pas de poisson. Ça, déjà, ça peut choquer certains participants du mariage. Mais alors, un mariage sans alcool, c'est la garantie d'avoir la moitié des invités qui ne viennent pas et l'autre moitié qui va être paniquée 2 heures avant le début de la cérémonie, clairement. Il y a vraiment un profond attachement culturel, et en fait cet attachement culturel il sert aussi à rassurer les gens lors des interactions sociales.
Ça, c'est clair. On avait parlé en particulier sur l'émission sur l'alcool et la fête au moment de Noël. On disait que, en plaisantant, en disant que pour supporter la belle-mère, avoir bu un ou deux verres au début de la fête, ça pouvait aider. On en avait déjà parlé de ça. Mais effectivement, tu fais bien de le souligner, Romain, un mariage sans alcool, ça paraît tout à fait... Et à côté, il faut quand même se désinhiber, casser la glace à un moment avec les autres gens pour peut-être atteindre une discussion assez superficielle, mais pour pouvoir parler, quoi, parce que sinon, ça va être une soirée glaciale, toute la soirée. Oui.
Ouais, non, moi j'ai une question à poser à Jules, en fait, c'est les moments où tu as craqué pendant le mois là, c'était des moments où tu étais en soirée avec des copains ?
Ouais, tout à fait. Je sortais avec j'étais avec ma copine dans un bar qu'on aimait bien, et là je recroise toute la flopée de copains que j'ai pas vu depuis longtemps, et du coup pendant que je faisais un jeu de société avec ma copine et que mes copains étaient à côté, je me suis pris un petit verre de blanc.
Ouais, donc ça rejoint vraiment une ancienne émission qui était la fête et l'alcool. C'est plus compliqué pour toi de sortir sans boire que de rester chez toi et de pas boire, en fait, quelque part.
Je dirais pas que c'est compliqué, mais c'est-à-dire que c'est tellement chevillé, j'ai tellement un alcool social, qu'effectivement c'est vraiment une habitude. Donc on pourrait dire, effectivement, je rejoins ce que disait Gilles, l'addiction c'est pas l'autre, on a tous une petite part d'addiction, et je crois que moi ma petite part d'addiction vis-à-vis de l'alcool c'est cet alcool social, c'est cet alcool avec les copains. Est-ce que je serais prêt à m'en passer volontairement super longtemps? Est-ce que je pourrais le faire? Je crois pas. Parce que j'ai pas de problème de santé vis-à-vis de à cause de l'alcool. J'ai une consommation tout à fait en deçà des doses toxiques. Mais est-ce que j'ai pas une petite dépendance à ça qui traîne malgré? Bah peut-être que si.
Je suis pas du tout en train de dire que t'as une dépendance, mais c'est vraiment par
rapport à un ancien
débat qu'on avait eu sur l'alcool et la fête.
Ouais.
Et autant nous, on est des anciens alcooliques où on pouvait boire sans être avec des gens, on pouvait boire tout seul chez nous.
Ouais.
Autant j'avais l'impression dans ton discours que c'était plus chez toi, bah, t'y pensais pas vraiment. Mais par contre, quand voilà, t'as l'alcool social, donc si tu sors, tu vas boire un verre de vin ou une bière, mais pas plus.
Ce qui définit l'alcool, en fait, ce qui définit l'addiction, c'est ce qu'on appelle la perte de contrôle. C'est pas forcément de se mettre la tête à l'envers, mais c'est de boire alors qu'on avait décidé de ne pas boire. On n'est pas obligé de s'enivrer jusqu'à tomber par terre, mais il y a des gens qui sont totalement et définitivement alcooliques et hyper dépendants à une ou deux unités par jour, et qui ne seront jamais prêts à s'en passer.
Il y a aussi peut-être un aspect, c'est l'intérêt de janvier sobre, c'est peut-être par rapport à l'âge, parce que ça on en a aussi parlé dans nos émissions, l'abstinence totale en particulier à 35 ans, c'est pas la même qu'à 60 ans, hein. Moi, j'ai arrêté l'alcool à 60 ans. Bon, il y a un moment où on se dit... la santé, on en parlait tout à l'heure. Bon, Didier, peut-être aussi. Il y a un moment, là, où on se dit, bon, on peut s'arrêter. À 35 ans, ça doit être moins évident, je ne sais pas. Nos spécialistes de la santé, nos docteurs, qu'est-ce qu'ils en pensent de ça? Dans les gens que vous voyez autour de vous, c'est peut-être intéressant, janvier sobre, pour ça, non? C'est peut-être plus incitateur pour les gens plus jeunes, c'est ça que je veux dire.
Je ne me prononcerai pas parce que, effectivement, on peut raisonner comme ça. On peut aussi se dire qu'arrêter à 60 ans, alors que ça fait, on va dire, deux tiers de notre vie qu'on a connue avec de l'alcool, c'est compliqué, encore plus compliqué d'imaginer la vie sans alcool, quelque part. Ça me paraît compliqué de reconstruire quelque chose à zéro, là où l'alcool est la pierre angulaire de toutes nos relations sociales, de reconstruire quelque chose sans l'alcool. Après, oui, effectivement, à 35 ans... moi, justement, j'ai fait un repas au restaurant pendant janvier sombre sans alcool. Globalement, j'avais l'impression que j'étais chiant, que j'étais moins... tous les autres étaient en train d'évoquer leur anecdote après 3 ou 4 verres d'étudiants bourrés, justement. Et moi, je ne trouvais pas le sujet intéressant. Et non pas parce qu'il me donnait envie de boire, juste parce qu'en fait, c'était bête comme sujet. Donc, je n'avais pas suffisamment d'alcool dans le sang pour apprécier l'humour de la chose. Donc voilà, ça peut compliquer les interactions sociales qui se construisent aussi dans la trentaine, oui.
On va peut-être faire la pause musicale. Je trouve que c'est une bonne entrée en matière pour la première partie de l'émission. Lucie, on va lui demander de nous envoyer « Femme à la mer » de Oshi. Merci.
Je me cigare comme une cubaine. Le sandar rempli de mes peines, paumé dans les bouchons de Liège, goutte après goutte, je m'abrège. Encore une fois, c'est ma tournée, pas la dernière de la journée. Je suis le reflet du n'importe quoi, même le miroir se moque de moi. J'ai passé ma nuit au comptoir, tout ça dans l'espoir de te voir. Je t'attends encore. Si tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait un peu plus fort. Plus je bois, plus je bois, plus je bois. Plus je bois, plus je te vois. Plus je te vois, plus je te vois. Plus je te vois, plus je me noie. Je me noie, je me noie. Je suis une femme à la mer. Plus je crois qu'on est tout seul avec soi, avec soi, avec soi, même si on n'en a pas l'air. Les amours tour à tour me mentent. Je prends des tournants, je me tourmente. Je fais des pas sans y penser, les démons m'invitent à danser. Une chorégraphie de comptoir sur un tango de désespoir, belle mise à mort. Si tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait peut-être encore. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je me noie, je me noie, je me noie. Je suis une femme à la mer. Qu'on est tout seul avec soi, avec soi, avec soi, même si on n'en a pas l'air. Deux âmes seules feront peut-être, deux âmes sœurs pourront renaître, deux âmes seules valent mieux qu'une. Je plonge dans tes yeux sans rancune. Plus je bois, plus je bois, plus je bois. Plus je bois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je me noie, je me noie, je me noie, je suis une femme à la mer. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je crois, plus je crois, plus je crois, qu'on est tout seul avec soi, avec soi, avec soi, et si on n'en a pas l'air.
Donc, nous allons pouvoir commencer la deuxième partie de l'émission. On reparlera tout à l'heure quand même de la pression de ce qu'on appelle le lobby alcoolier, hein, les gens qui vivent de l'alcool, qui vivent de la vente du vin français et des spiritueux, etc. On parlera peut-être aussi des études sur la santé, des effets de l'alcool qui changent progressivement. En attendant, on va peut-être rester sur les témoignages personnels sur Janvier Sobre. Docteur, je vous redonne la parole.
Oui, on est venu à trois ce soir. On est des gens qui travaillons avec vous depuis longtemps et qui avions tenté de changer un peu de côté de la table avec votre connivence. Ça a été quand même important pour moi de voir que quand je faisais mon temps d'abstinence, pas toujours d'ailleurs ces dernières années, pas toujours complète. Il y avait des petits accros parce que une situation sociale et je ne voulais pas embêter le monde. Mais ce n'était pas un désir de boire. C'était plutôt inconfortable. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait un rapport co-efficacité dans le fait que j'accueille aussi des gens qui ne justifiaient pas de mettre tout le monde dans un truc qui demande des tas d'explications. En attendant, autant quand c'est mon choix, c'est facile. Autant quand c'est un cadre qui vous est proposé, voire imposé, parce que c'est en janvier, c'est pas un autre moment, c'est vachement difficile. Et là, ça m'a fait réfléchir sur la position du soignant, qui sait bien tout, qui sait tout, le gars ou la femme, mais et du patient ou de la patiente, qui bien sûr est complètement démuni, et qui se retrouve dans une position de faiblesse qui est juste liée au cadre. C'est-à-dire que vous êtes tous capables de faire des choix et vous êtes tous capables, avec de l'accompagnement, d'arriver à atteindre votre objectif. Mais quand il vous est imposé, c'est presque impossible. Un choix qui nous est imposé, ce n'est pas un choix. Et en l'occurrence, le janvier sobre qui correspondait à un moment qui n'était pas parfait pour moi, vraiment rien que j'avais choisi, j'ai trouvé ça difficile à cause de la contrainte et à cause du fait que, pour aller vite, c'était pas ma maison, ça m'appartenait pas. C'était un truc qu'il fallait faire parce que c'était le cadre commun, mais ça me convenait pas tant que ça. Et je pense que ça nous amène à une réflexion quand même sur le travail qu'on peut faire avec les patients, la compréhension qu'il faut avoir, et d'autant plus que, je le disais tout à l'heure, ça a changé le jour où j'ai découvert qu'il y avait ce site internet et qu'à partir du moment où je me suis inscrit, j'ai tous les jours un petit bisou, un petit message, un truc marrant, quelque chose qui faisait que voilà, j'étais pas seul. Et là, ça montre que l'accompagnement, en l'occurrence, il était hyper léger, c'était trois lignes, mais c'était précieux parce que c'était tout d'un coup, j'étais accompagné en chemin. Ça m'a vraiment indiqué tout ce travail qu'on a à faire sur, d'un côté, de donner de la liberté aux gens, parce que c'est en fait le boulot, mais aussi donner du soin et en fait de l'accompagnement.
Ouais, merci, ça c'est vraiment un intérêt pour nous de vous avoir là ce soir, c'est une grande valeur. Romain, tu veux peut-être ajouter quelque chose sur ce qu'a dit Gilles? Non?
Moi je veux rebondir sur un truc qu'a dit Gilles. Je pense que effectivement le moment il est important et le moment qu'on nous impose il est important. Je pense que le vrai gros défi, ce serait ton mois de vacances sobre. Là je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ne sont pas totalement abstinents ou qui boivent pas du tout d'alcool régulièrement. À part ces gens-là, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de gens qui seraient capables de passer un mois de vacances sans boire la moindre goutte d'alcool. Je pense que ce moment-là aussi, il est...
Juste pour le texte qu'on a entendu de Gilles, c'était ça. Hein, Gilles, tout à l'heure, il nous a dit au téléphone que lui, c'était sur le fait que le mois de vacances, c'était la révolution dans la famille. On faisait tout autrement et notamment, on faisait l'expérience de ne pas boire d'alcool. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il change de vitesse. Et c'est vrai que ça a été... Alors, pour le coup, je m'en suis beaucoup servi en consultation de proposer aux gens de participer à cette expérience en disant, écoutez... Vous avez des soucis avec l'alcool, vous ne vous sentez pas prêt à arrêter, c'est peut-être pas votre sujet, mais là, il y a une opportunité qui concerne plein de gens qui ne sont pas du tout des gens dans la maladie, dans la dépendance. Pourquoi vous ne prendriez pas le train? Pourquoi vous n'en profiteriez pas? Le constat, c'est quand même qu'ils ne l'ont jamais pris. Hein. Mais c'est vrai que c'est une opportunité, c'est cette légèreté de dire oui, je coule le coup des vacances ou d'un autre moment qu'on choisit, mais qui fait que on peut changer, on peut ne pas faire tout le temps la même chose.
Oui, puis ce qui était important, que vous disiez, souligner tout à l'heure, c'est l'accompagnement, même s'il est petit. Le nombre de fois que les amis qu'on a pu parler, nous, des groupes de parole, hein, c'est un des buts de l'émission. Et pour nous, abstinents
c'est pas le mois, nous, ça fait plusieurs années, des fois. C'est vraiment important, ce travail d'accompagnement, ce travail d'échange, d'échange entre nous. Lucie, je voulais te faire témoigner sur Janvier Sobre.
Alors oui, moi, c'est quelque chose que j'ai pas fait. Enfin, je me suis posé la question, parce que c'est vrai que ça fait maintenant un an qu'on travaille ensemble. Et avant, je me suis jamais questionnée sur ma consommation d'alcool. Et c'est vrai que là, depuis un an, un peu plus, et je m'étais posé la question de faire le janvier sans alcool. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais peur. Parce que j'avais peur de me rendre compte que j'étais pas capable de le faire. De me rendre compte qu'au final, c'était beaucoup trop compliqué pour moi de pas boire pendant un mois. Et de me dire qu'il y avait peut-être un problème, je sais pas, hein, mais voilà, j'ai pas fait parce que j'ai flippé.
Oui, mais c'est ça, hein, janvier sobre. Hein. Ça sert à ça aussi. Merci, Lucie, de cette sincérité. C'est important aussi que des gens puissent dire « moi, j'ai craqué » ou « moi, j'ai eu peur de le faire ». Parce que ça sert à ça, hein, à se questionner et à se faire peur. À se faire peur. Bon, nous, le but c'est pas de faire de clivage entre les abstinents et puis les gens qui font janvier sobre. Hein. On est tous un peu confrontés de toute façon au même truc. Moi, ce que je vois, on en a parlé des fois aussi en émission entre nous là. Les 6 premiers mois, quand on commence une abstinence qui dure 6 mois pour essayer de se défaire de l'alcool. Bon, au début, il y a des médicaments. Mais il y a un moment où on a l'euphorie de sentir que ça va très très vite, beaucoup mieux. Et il y a ça aussi dans janvier sobre, c'est que c'est les premiers effets. Parce que là, il n'y a pas besoin de prendre de médicaments, hein, c'est une question. Là, pour du coup, c'est une question de volonté. Je le fais ou je ne le fais pas, et les effets bénéfiques sont là tout de suite. Romain, excuse-moi, je te redonne la parole.
Non, mais on parlait du fait qu'on n'était pas là pour cliver avec l'initiative janvier sobre. Bon, je pense qu'on va pouvoir en reparler un peu plus tard, mais dans les faits, effectivement, l'idée, c'est pas de défier les gens, c'est pas de leur dire « vous êtes pas cap, bande de nuls ». L'idée, c'est de se questionner sur son rapport à la consommation. C'est quelque chose qu'on peut faire avec l'alcool, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. On pourrait faire le mois sans voiture, on pourrait faire la semaine sans viande, l'heure sans téléphone portable, bon ça j'essaie d'être réaliste, hein. mais du coup on a quand même juste simplement cette question. Pour ceux qui disent que c'est embêtant de forcer les gens à faire un mois sans boire, non, on force personne. L'idée c'est, est-ce que vous avez un rapport à l'alcool suffisamment sain pour être capable d'arrêter pendant un mois?
Ouais, je suis tout à fait d'accord, parce que est-ce que c'est pas quelque part, si on se sent forcé d'arrêter quand on entend ça, c'est là qu'il faudrait vraiment se poser la question. Et que je suis d'accord avec Romain, je le rejoins beaucoup là-dessus. Rien que le fait de se poser la question, même si on n'a pas fait le mois sans alcool, c'est déjà un petit peu gagné.
Bah oui, parce que en fait, quand tu as le mois de novembre sans tabac, les non-fumeurs, ils ne se sentent pas concernés. Hein. La pub passe devant eux à la télé, ils ne la regardent même pas. Je pense qu'à partir du moment où on l'entend, c'est que quelque part, en fait, on est concerné par la chose.
Oui, puis il y a aussi le fait, donc il y a le fait de la contrainte, et puis il y a aussi le fait que cette expérience, elle soit faite sur une durée limitée, c'est-à-dire un mois, avec l'idée pour certains que de toute façon, après un mois, youpi, on pourra recommencer, quoi. Donc c'est pas du tout pareil que quelqu'un qui est vraiment addict à l'alcool et qui doit arrêter pour des raisons de santé, par exemple, ou d'autres raisons. C'est pas le même cadre, quoi. Mais ça mériterait d'approfondir là-dessus, effectivement, cette expérience. Mais pour moi, ce qui compte vraiment au regard de l'expérience que je vis maintenant depuis 2 ans avec les groupes de parole, avec les rencontres avec les médecins, c'est que ce qui compte, c'est le mois sans alcool, mais le mois sans S, quoi. C'est ça qui compte, je crois. C'est surtout ça, quoi.
Joli.
Bravo. Très joli, ça. Oui. Juste un truc quand même qui interroge. On parlait tout à l'heure des bénéfices physiques. Alors, tout à l'heure, on a évoqué le fait que, voilà, dépendant, pas dépendant, est-ce qu'on n'est pas un peu concerné? En tout cas, il y a un truc, c'est que je n'entends personne qui ait fait cet arrêt de l'alcool pendant un mois et qui n'y ait pas trouvé de bénéfice physique. Ça veut quand même dire qu'on accepte de s'alourdir, de se compliquer la vie, parce qu'il faut, on ne sait pas pour qui, tous les jours en dehors de ce mois. Et c'est quand même flagrant, je veux dire, en termes de perte de poids, et tout d'un coup, ça devient tout simple. Ça se fait tout seul sans même qu'on y pense. En termes de sommeil, ça devient tout simple et le sommeil devient facile et léger. Et oui, en termes de morale et de tonus, c'est vraiment pas du tout la même chose. On est beaucoup moins fatigable, on se réveille plus frais et tout est bon. Et puis, en termes de sensation de liberté, c'est très chouette aussi parce qu'on dit oui, on dit non comme on veut. On n'est absolument pas dans un train qui vous emmène. On est dans quelque chose où on peut dire non. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'assez vite, on dit non aisément. Ça les amuse de boire. Ben oui, mais moi, ça ne m'enchante pas. Il n'y a pas du tout d'accroche. Quoi. On a perdu le contact et c'est tout simple. Et ça, c'est vraiment très agréable.
Alors ça, c'est intéressant. Et la chance qu'on a d'avoir des professionnels dans l'émission, là. Le discours médical sur l'alcool a quand même évolué et changé depuis quelques années. Peut-être qu'on est passé d'une époque où on disait un verre une fois de temps en temps, ça fait pas de mal, un peu d'alcool, où on laissait faire, où les médecins disaient pas trop grand chose. Alors que là maintenant, c'est pas les études. Les études disent vraiment que l'alcool c'est un poison, c'est pas bon quoi. C'est l'alcool, c'est dangereux pour la santé. Sans vouloir justement rentrer aussi diaboliser le sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose, les professionnels ?
On a aussi entendu que le vin, c'était pas de l'alcool, que c'était pas dangereux voilà. Comme les autres alcools pour la santé.
Le truc qui nous a tous fait péter un plomb.
Non, on est des poissons, hein. On est fait pour boire de l'eau, c'est bête, mais on est fait pour boire de l'eau. C'est d'un banal. On boit du vin de manière culturelle dans une toute petite partie du monde, grossièrement le monde romain. Pour le reste, c'est un peu anecdotique, c'est sur des événements, c'est quand on veut se shooter, c'est quand on veut, entre guillemets, faire la fête. En fait, en d'autres termes, c'est quand on veut pas être normal, quoi, quand on veut sortir de l'ordinaire. Mais le vin comme une forme de lubrifiant, oui, c'est un lubrifiant social, ça baisse les angoisses. Mais le vin comme une forme de nécessité, je crois que ça a la même valeur et c'est le même discours que quand on nous dit qu'en France, on est les plus gros consommateurs d'anxiolytiques en Europe ou dans le monde, je ne sais pas. Mmh. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas ce qu'on a, mais on a besoin d'avoir un doudou. Bon. Et on fonctionne apparemment plutôt... Enfin voilà, quoi. Individuellement, on va aussi bien sans, mais en pratique, on a à peine le droit. Ça, c'est dur de penser qu'on peut fabriquer du non-droit. Ça, j'ai un peu de peine avec ça. Mais en tout cas, il n'y a aucun raisonnement scientifique qui fait que c'est intéressant de boire quelque chose qui n'est pas bon pour la santé. Ça, je veux dire, même si ça correspond à quelque chose de puissant économiquement ou socialement, ça n'a pas d'intérêt pour la santé, non.
Mais il y en a eu. On a eu, là actuellement, on nous dit de ne pas boire plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. Pendant longtemps, on nous a dit que boire 1 à 2 verres par jour de vin, c'était bon pour le cœur. Voilà. Ouais, donc là-dessus, moi, je ne vais pas trop m'aventurer. La science, on essaie de la faire la plus rigoureuse qui soit, la plus rigoureuse possible. On reste des humains et on peut faire des erreurs de bonne foi et on peut aussi avoir certains intérêts qui nous poussent à faire des erreurs dans les résultats qu'on publie.
Parce que le lobby alcoolier dont on parlait tout à l'heure, donc les vendeurs de vin, les négociants, etc., ils poussent vers une certaine parole de la médecine où l'alcool est quand même présenté sous des côtés bénéfiques. La pression qu'il y a eu de la part du lobby alcoolier est importante dans cette campagne Janvier Sobre. On voit que ça représente... on voit la pression à laquelle on est soumise, hein. Enfin, les chiffres encore ce matin dans Le Monde, là, le chiffre d'affaires à l'exportation... Au niveau des vins et spiritueux, en 2019, 14 milliards d'euros. Et le jour dans Le Monde, il donnait un des premiers articles qu'ils ont donné, il donnait des chiffres qui dataient de 2013, donc c'est pas tout neuf. Hein. Il y a 24 milliards d'euros, ça représente les alcools, bières, spiritueux et vins à l'époque, en 2013. Donc ça a dû augmenter encore depuis. Donc là, on voit bien la pression. Et pourquoi on est montré du doigt, nous les gens qui travaillons sur l'abstinence? Janvier Sobre a été largement critiqué, hein, et toutes les associations qui travaillent sur l'abstinence, on leur demande de couper les subventions, etc.
Ah oui, alors ça, ah. En même temps, un des grands moments, à la fin du mois de janvier, le 31, ils avaient organisé à Paris une réunion des gens qui voulaient, une forme de rendez-vous qui donnait rue des Canettes. Près de Saint-Sulpice.
Ça s'invente pas.
Près de Saint-Sulpice à Paris. Et alors, il se trouve qu'on était dans le quartier à ce moment-là, donc on a été faire un saut, et ça a été très agréable, et je suis tombé, alors ça c'était intéressant, parce que je suis tombé sur... Alors, pour le coup, j'avais devant moi le président et le secrétaire général de l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme. C'est pas rien. Ouais. Ils étaient là. Et puis, d'autres gens qu'on m'a présentés. Et alors, là, il y avait aussi le médecin de cette association, qui est la grande structure de prévention, qui s'appelle le docteur Craplet. Et le docteur Craplet m'a dit, mais Blois, mais j'ai lu un article dans Le Monde sur Studiosef. C'est vous qui faites la radio ?
C'est nous.
Mais c'est vachement bien. Et alors, oui. Bon, j'aurais donné l'article. Hein. Mmh. Et c'était très joyeux. Mais en tout cas, ce qui a été fort à ce moment-là, c'est le président, le secrétaire général de l'ANPA, de l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme, donc vraiment la structure de prévention qui dit, mais attendez, bien sûr que notre leitmotiv, c'est la modération. Mais là, on est à fond dans ce truc. Parce que la modération, c'est un discours généraliste, mais il y a plein de gens qui ont besoin de l'abstinence, et il faut qu'elle soit proposée. Et on laisse au lobby le fait de ne prôner que la modération. Nous, on a le droit aussi de prôner l'abstinence, parce qu'il y a des tas de gens pour qui c'est possible et même nécessaire, et bon. Et donc, ça m'a fait plaisir de savoir qu'on n'était pas tout seul.
Selon moi, c'est un avis qui n'engage que moi, parler de modération... c'est remettre la responsabilité sur le malade, en fait. D'ailleurs, c'est pas un malade, en fait. C'est une personne qui est faible, qui ne sait pas se modérer, qui ne sait pas faire correctement les choses. Et c'est sa faute s'il se retrouve avec des problèmes. L'abstinence, c'est considérer que la boisson est une maladie, que l'alcool est une maladie, et qu'on peut s'en défaire, et que la seule façon de s'en défaire, c'est d'éviter le produit toxique qui nous rend malade, donc s'abstenir. Donc... la modération peut être prônée par les médecins, ça peut être une façon de discuter avec le patient, il n'y a pas de souci. Mais quand on entend certains alcooliers dire que l'abstinence, c'est l'apanage des hygiénistes, j'ai appris que j'étais hygiéniste. Donc l'hygiéniste, grosso modo, je pense, hein, normalement c'est censé être un mouvement historique de la santé publique qui n'existe plus depuis une bonne centaine d'années. Mais pour nous, je pense qu'en fait, ça veut dire qu'on est des gens qui voulons soigner la population, contre son gré, et en fait, et la soigner en enlevant tout ce qui est joyeux et bon dans la vie, en fait. C'est-à-dire créer des êtres ternes, gris, mais qui vivront longtemps. Voilà ce qu'on nous reproche. Pour le coup, la modération, nous, on n'est pas contre, mais la façon dont les alcooliers la vendent, c'est de dire, c'est pas notre problème, en fait. Voilà, c'est nous on vous vend de l'alcool, c'est à vous d'être responsable, c'est à vous de faire en sorte de pas en abuser. Nous, c'est pas notre souci, on s'enlève les mains. Et ça, pour le coup, moi, c'est ce qui m'a le plus énervé dans toute la polémique sur Janvier Sobre.
Mais le lobby alcoolier est super susceptible. Ils sont très très susceptibles, hein, parce qu'en ce moment là, il y a plein d'histoires de taxes. Les Américains balancent des taxes sur les vins français, sur les spiritueux français, et sur le champagne dernièrement là, en réponse au conflit entre Boeing et Airbus. Trump était parti pour mettre des taxes sur le champagne. Là. Ils ont tous eu très très peur, hein, de tout ça. Et ils combattent depuis très longtemps contre la loi E20, qui avait déjà commencé à essayer de limiter les effets de l'alcool. Et en fait, on voit dans tous les articles de presse que le lobby alcoolier s'impose dans le domaine de la prévention. C'est presque eux qui prônent la prévention. Romain, tu le disais tout à l'heure, ils font la promotion, ils prônent la modération plutôt que l'abstinence, avec des repères de consommation.
Parce que ça va bien avec l'évolution du message qu'on fait passer sur l'alcool. Ok, maintenant, on ne peut pas dire que l'alcool, c'est bon pour la santé. Ça ne marche plus. C'est comme la cigarette il y a quelques décennies. On ne peut plus dire ça, les gens ne nous croient plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On présente l'alcool comme un mets de luxe, et comme c'est de luxe, on n'est pas censé en consommer beaucoup. On doit en consommer de faibles quantités, mais acheter de la bonne qualité. Donc, comme ça, ce qu'avant, on gagnait, ce que les alcooliers gagnaient en vendant pas cher mais beaucoup, ben maintenant il le récupère en vendant peu mais très cher. Voilà, donc la modération va bien avec ce message là
Jules? Ouais, je suis tout à fait d'accord, parce qu'en fait ce qu'essaient de nous rentrer implicitement toutes les équipes de com des alcooliers, ce qu'ils essaient de nous rentrer dans le crâne, c'est qu'il faut boire modérément, mais il faut boire au moins un petit peu pour être sympa, pour être cool, pour passer des bons moments. C'est que ce qu'ils veulent nous rentrer dans le crâne, c'est qu'on ne peut pas passer un bon moment sans alcool, sans un petit peu d'alcool. Et c'est là où on se fait un petit peu entuber. C'est que justement, on est en train de les laisser s'insinuer dans la prévention, en fait. comme ce qu'on fait, et c'est une stratégie qui est de longue date, qui est extrêmement bien éprouvée. C'est ce qu'on fait les industries du tabac. Les industries du tabac, aujourd'hui, elles gèrent toute la prévention aux États-Unis. Et parce que du coup, ils vous vendent le problème et la solution, ce qui fait que c'est encore pire qu'un monopole. Et du coup, bah voilà, ils tuent des gens, mais ils n'ont jamais gagné autant de thunes. Donc si vous voulez vous faire un petit haut-le-cœur, un petit ulcère ou aller vomir, vous allez sur le site vitisphere.com et vous regardez le petit discours d'Emmanuel Macron qui s'oppose frontalement et publiquement au défi de janvier, donc au dry January. Vitisphere.com, allez voir, c'est effarant.
Je propose qu'on conclue tranquillement là-dessus. Il va être le moment, je crois que c'était une émission très riche, merci à tous, c'est vraiment, vraiment sympa. On va rappeler les numéros, Didier va nous rappeler les numéros comme il avait dit en début d'émission. On va remercier Lucie pour la technique, toujours comme on fait, sympa, merci. Les participants, je vous remercie tous de votre participation. Merci.
De rien,
les auditeurs
cool.
Qui nous ont écoutés aussi. Didier va nous faire le rappel des numéros et on laissera aussi Jules proposer une adresse, je crois, mail, sur un sujet qu'il traite actuellement. Il vous expliquera ça. On essaie de conclure assez rapidement.
Oui, nous sommes hélas arrivés à la fin de cette émission très, très intéressante. Donc je rappelle vite fait les numéros que je vous ai annoncés tout à l'heure. Avec correction en ce qui concerne les services de l'hôpital de Blois. On a porté des corrections pendant l'émission. Le 02 54 55 60 44, c'est le numéro de la psychiatrie de l'hôpital de Blois et non pas du service addictologie. Hein. Ensuite, pour le service addictologie, donc là j'ai trois numéros qui nous ont été précisés. Le 02 54 55 67 40, 02 54 55 67 50 et 02 54 55 65 10. Hein. Vous pourrez retrouver les groupes de parole de Montrichard, Saint-Aignan, Celles-sur-Cher et Blois sur le blog Entre deux eaux. Hein. Je rappelle la messagerie téléphonique de la radio qui nous sera. Les messages nous seront retransmis. 02 54 43 51 33. Et l'adresse mail, parole au pluriel, parole avec un S, donc, @studiosef.fr. Donc, et je rappelle que ces numéros, vous pouvez les faire en toute confiance, avec toute la discrétion, sera assurée.
Ouais, alors je vais conclure. En fait, moi, je fais ma thèse pour conclure mes études sur l'addiction à l'alcool et le baclofène. Et du coup, je vais vous laisser mon adresse mail parce que du coup, j'aurai après relecture, évidemment, par des professionnels et puis la validation par des gens qui s'y connaissent, à la fois des patients experts. Et puis des professionnels de santé. J'ai deux questionnaires à vous faire passer.
Que le baclofène est un médicament.
Le baclofène, c'est un médicament qui est utilisé pour dans le traitement de l'addiction à l'alcool et du coup pour diminuer l'envie de boire, qui est un des médicaments qui pour l'instant marche le mieux, quoi qu'on en dise et quoi que certains essayent de nous dire. Moi je fais ma thèse là-dessus et je vais essayer d'avoir ça de manière objective et j'aurai deux questionnaires à vous faire passer, un sur le baclofène et un sur l'accessibilité aux soins en officine. Comment vous sentez à l'officine? Donc si ça vous intéresse de répondre à ce questionnaire là, vous m'envoyez un petit mail à jdebeure@hotmail.fr, jdebeure@hotmail.fr sans accent, jdebeure@hotmail.fr. Merci.
Et c'est peut-être un mail qu'on pourra mettre dans l'article du podcast à la fin.
Tout à fait.
Que vous pourrez retrouver du coup sur le site de studiosef.fr.
Au revoir,
Lucie.
Merci,
Lucie. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, l'est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse. Si t'as le bec fin, s'il te faut du vin, première classe, va boire à Passy le nectar d'ici, te dépasse. Mais si t'as le gosier qu'une armure d'acier, matelasse, goûte à ce velours, ce petit bleu lourd de menace. Tu trouveras là la fine fleur de la populace, tous les marmiteux, les calamiteux de la place qui viennent t'en rendre.